tous. J'espère que vous allez tous bien, au plus ou moins. Bon, si ça ne va pas, c'est la place pour prier. Vous êtes là depuis ce matin à l'église pour louer notre Dieu, pour le prier. Moi, j'ai toujours dit, la maison de Dieu, il n'y a pas de meilleure place pour exprimer ses problèmes à Dieu que dans sa maison. Et David disait que je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Pas allons dans un maquis, pas aller dans un bar, pas aller chez les danseurs, mais aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que là, il pouvait se confier à l'Éternel. Il pouvait lui pleurer sur les épaules. Il pouvait exprimer tout ce qui lui passait sur le cœur, en bien comme en mal, tout ce qu'il souffrait. C'est un endroit où on peut parler de Dieu, on peut prier, on peut s'exprimer. Amen. Si on ne peut pas faire ça ici, on va le faire où? Hein? Chez McDo? On ne marchera pas. Alors donc, c'est la bonne place. Vous êtes à la bonne place, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse ce matin ensemble. Merci pour tes prières, Stéphane. Merci aussi au groupe musical qui nous a conduits dans la louange ce matin et qui se passe bien. Et on a bien chanté, n'est-ce pas? Vous avez apprécié ça? Moi aussi. Alors, ce matin, je vais continuer avec la suite de notre enseignement sur le caractère en construction. On avait parlé il y a 2 semaines sur le caractère en construction. Nous avons dit que ça prend l'intelligence renouvelée. Si notre caractère est en construction, notre intelligence doit être renouvelée, transformée, métamorphosée pour pouvoir ressembler à Dieu. Parce que tout notre objectif, la construction, le caractère qui est en construction, on le construit par rapport à qui? Par rapport à quoi? On construit ce caractère-là par rapport à Jésus-Christ. Nous voudrons ressembler à l'image de Christ dans toute sa plénitude, dans toute sa personne, dans toute sa dignité, dans toute sa gloire. Et c'est pourquoi nous sommes encore ici bas. Dieu nous permet d'être ici encore pour faire l'exercice en attendant qu'on arrive au ciel. Parce qu'on doit arriver à atteindre l'image de Christ. C'est ça. Sinon, quand tu es sauvé, il te lève, paf, il t'amène au ciel. Mais il te laisse ici parce qu'il y a de la job, mais aussi parce que tu as besoin de t'exercer pour ressembler à son fils. Parce que l'Écriture nous dit qu'il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Et l'épouse de Christ, c'est qui? C'est l'Église. C'est vous et moi, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la paix avec lui. Donc, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons appris que cela se passe au niveau de la parole de Dieu, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu et la mémorisation de la parole de Dieu. Ça, c'est un petit rappel pour vous. Vous vous souvenez? Un cerveau qui fait la musculature comme ça, c'est fort, hein? À la fin, il va devenir gros. Alors, donc, on a vu ça. Nous avons parlé après que nous devons nous garder des idoles. Et c'est ça que j'ai apporté dimanche dernier. Garder notre cœur des idoles. Non seulement nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir être régénéré et renouvelé et être à la ressemblance de Christ, mais aussi nous avons besoin d'avoir une intelligence et une pensée pure, mais qui s'éloigne des idoles, où les idoles n'ont pas leur place. Une idole n'est rien d'autre que quelque chose qui prend la place de Dieu, qui vole la gloire de Dieu et vole la dignité de l'homme. C'est un faux Dieu. Et nous n'avons pas besoin de ça dans notre vie, et c'est ce que je vous avais dit. L'Écriture nous dit, éloignez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Et nous savons combien d'idoles nous avons dans nos cœurs. Combien de choses que nous aimons plus que Dieu. Combien de choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie tous les jours. Nous avons fait l'exercice un peu pour dire, si tu veux savoir vraiment quel est ton Dieu, regarde ton portefeuille, regarde le bilan. Quand tu prends ton relevé bancaire, tu regardes où est-ce que tu as dépensé dans le mois ou dans l'année, tu sais où ton Dieu se trouve. Parce que l'Écriture dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton... Voilà. Alors donc ce matin, je voulais aller avec une autre suite. C'est que l'Écriture nous dit encore, c'est de garder notre cœur, on a parlé de cela, mais nous devons aussi nous garder de mauvaises compagnies, de mauvaises fréquentations. Amen. De mauvaises compagnies, de mauvaises fréquentations. L'Écriture nous met en garde pour cela, parce que le caractère qui est en construction a besoin réellement d'être protégé à tous les niveaux. Nous avons besoin non seulement d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, d'enlever les idoles de notre cœur s'il y en avait, et s'il n'y en a pas, d'empêcher que ça entre, mais aussi d'empêcher d'avoir de mauvaises fréquentations. Parce que les mauvaises fréquentations, on va le voir tantôt, ont une influence sur notre vie. Ceux que je côtoie tous les jours, ceux que vous côtoyez tous les jours, au travail, à l'école, à la maison, votre voisinage, vos amis, votre chum ou votre blonde, je ne sais pas. Donc, tout cela a de l'impact sur votre vie, votre entourage. Que vous le voulez ou pas, on flûtit à cela, on se change des informations entre nous. Donc, ce matin, mon but est de nous amener à comprendre cela, que c'est important. Nous savons tous qu'on a besoin des amis dans notre vie. Mais avant d'arriver au vif du sujet, on va voir qu'est-ce qu'on va regarder ce matin. Voilà ce que je vais faire. L'avertissement qui est donné et pourquoi est-il important que nous nous gardions des mauvaises fréquentations et que devons-nous faire pour nous garder des mauvaises fréquentations? Et puis, on va aller à la conclusion et on va prier pour terminer. Ça peut aller comme ça? Bien. OK. C'est bon. OK, on peut aller. Alors, donc, nous savons tous, premièrement, dans notre société, il est important d'avoir des amis, n'est-ce pas? Tout le monde veut avoir des amis. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est seul qui ne veut pas avoir d'amis. Tout le monde veut avoir des amis. Pourquoi on veut avoir des amis? C'est normal, parce que c'est sain d'avoir des amis. À un moment donné, c'est sain d'avoir des amis. Mais ce n'est pas le n'importe quel des amis qui est sain. Vous êtes d'accord? Et si nous avons des amis dans notre vie, c'est bon, parce qu'on va pouvoir communier avec eux, avoir de la communion fraternelle, discuter, partager nos cœurs ensemble, prier ensemble, faire d'autres choses ensemble. C'est bon d'avoir de la fréquentation, des amis. Mais la Bible nous dit, pas n'importe quelle. Pas n'importe quelle fréquentation. Alors, si notre caractère est en formation, et pardon, en construction, pas en formation, mais en construction, alors nous devons faire attention à ceux que nous choisissons comme amis pour nous entourer. Quels sont vos critères quand vous choisissez vos amis? Je me souviens un jour quand je parlais avec Michel Penaud, on discutait comme ça, il m'a beaucoup instruit sur beaucoup de choses au Québec, mais aussi au travers des Écritures, j'ai appris beaucoup avec lui aussi. Et il me disait, Adama, il y a des personnes que quand tu le gardes au centre, regardez que c'est un cercle que je parle, si tu gardes la personne dans le cœur du centre, c'est une bonne chose pour toi. La personne va t'aimer, vous allez avoir du bon temps ensemble. Mais il y a d'autres personnes, si tu les rapproches dans ce centre-là, ça devient négatif. Il faut que tu les éloignes un peu. Plus ils sont loin de toi, mieux ils te respectent, mieux ils font les choses comme il faut. Et à d'autres qui n'ont pas besoin d'être dans le premier centre, ni dans le deuxième, ils doivent être à 10 000 pieds plus loin pour te respecter. Parce que si tu les rapproches de toi, ils ne vont plus avoir du respect pour toi. Michel, tu te souviens? Tu vieillis, mais tu te souviens. Mais tu es encore jeune, c'est bon. Alors, et j'ai appris ça. Et dans nos relations d'amitié, il est important de tenir compte de ceux que nous choisissons comme nos amis. Parce qu'ils ont de l'influence sur nous. Si vous ne croyez pas, je vous demande, réfléchissez vous-même dans votre vie, combien de choses dans votre vie de tous les jours vous appartiennent, qui n'appartiennent pas aux autres, qui n'est pas une influence des autres sur vous. Réfléchissez. Tout ce que tu as sur toi, en bien matériel comme en réflexion intellectuelle, est-ce que tu ne penses pas que tu as été influencé de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre ailleurs? Si tu enlèves tout ça, combien reste qui t'appartient? Qui t'appartient toi propre, qui ne vient pas des autres. Les publicitaires ont compris ça, que nous sommes influençables. C'est pourquoi chaque jour, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous bombardent avec la publicité, à la télévision, sur l'Internet, sur tous les jeux, ils nous bombardent avec la publicité. Pourquoi? Pour que nous retenions. Et quand tu retiens leur publicité dans la tête, quand tu sors, tu as besoin d'un produit, tu as vu à la télévision, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas directement acheter. Je contais l'histoire à des frères. Je dis en Côte d'Ivoire, je parle souvent de l'Afrique ou de Côte d'Ivoire parce que c'est l'expérience que je connais. Je ne suis pas allé ailleurs, donc je ne peux pas parler de Chine. Je ne suis jamais allé là-bas. Alors, donc, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, pas le gouvernement, il y a une entreprise qu'on appelle, qui vend des tôles. Les tôles galvanisées, là, je ne sais pas si vous en avez ici, là, des tôles galvanisées qu'on met sur les toits des maisons. Ils vendent ça là-bas. On appelle ça tôle 5 étoiles. Tôle 5 étoiles, ils font la publicité de cela tellement, et c'est un éléphant qui est le symbole. Et l'éléphant, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Et quand la publicité finit, d'abord, dans la, sur la tôle là, il fait la publicité, et puis l'éléphant vient marcher sur la tôle, ça ne se plie pas. Et il fait tout, ça ne se plie pas. Et puis après, il y a un hangar qu'ils ont fait. L'éléphant, après, il va s'asseoir. En dessous de l'hangar, il pleut, il est en protection pour montrer comment cette tôle-là est solide. Alors, quand tu sors, tu bâtis ta maison, tu penses à tôle 5 étoiles. Tu vas acheter des tôles. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est tôle 5 étoiles que tu vas acheter si tu es en Côte d'Ivoire. Donc, les publicitaires ont mis ça dans notre tête. C'est pour vous dire que tout ce que vous faites, tout ce que nous achetons est influencé par quelque chose. Ta voiture avec laquelle tu es venu ce matin, probablement tu as été influencé par une publicité de bouche à oreille, que c'est une bonne qualité, tu as acheté. Moi, je suis vendu à Toyota. Hein? D'autres sont vendus à Acura. D'autres sont vendus à d'autres... à Lada. C'est ça. Ça, c'était ma première voiture, Lada. Alors, l'Écriture nous met en garde contre les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations. Alors, quand nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ne vous séduisez pas. Ne vous trompez pas vous-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent te changer, peuvent te détruire, peuvent façonner ton caractère, ta pensée. Donc, si je fréquente de mauvaises personnes, il y a un impact. Donc, l'Écriture nous met en garde contre ça. Ça, c'est l'avertissement qu'il donne. Vous voyez l'affaire, là, ça ne marche pas, j'appuie. OK. Mais maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une mauvaise fréquentation? Moi, je me suis trouvé une petite explication. Une mauvaise fréquentation... c'est le fait de côtoyer et d'entretenir une relation avec des personnes ou des endroits peu recommandables. Le fait d'entretenir, de côtoyer, d'entretenir des relations avec des personnes ou des endroits peu recommandables. Avez-vous des amis qui sont peu recommandables dans votre vie? Connaissez-vous des gens dans votre entourage qui sont peu recommandables? On en connaît tous. Peut-être au travail, vous en avez. Vous ne leverez pas la main, ne levez pas la main, parce qu'on ne veut pas non plus qu'on vous identifie, là. Pas grave, là. Alors, donc, il y en a. Mais l'Écriture présente les personnes de mauvaise vie ou bien de mauvaise fréquentation comme celle-ci. Il dit maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ici, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outragé ou ivrogne ou ravisseur et de ne même pas manger avec un tel homme. Le premier verset que nous avons lu, l'apôtre Paul, ça parle de 1 Corinthiens 15, ça parle réellement de la résurrection de Christ. Le débat, c'était Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité. Et des faux docteurs étaient dans la maison de Dieu qui disent que Christ n'est pas ressuscité. Alors, Paul va argumenter avec eux pour dire, si Christ n'est pas ressuscité, donc nous prêchons en vain, nous avons cru en vain. Vous connaissez tout l'argumentation qu'il aligne. Il dit dans ce cas, mangeons et buvons et mourons, car demain nous mourrons. Si Christ n'est pas ressuscité. Parce que toute notre espérance est posée sur ça. Alors, donc, des faux amis qui rentrent dans l'église à leur dire que Christ n'est pas ressuscité. Donc, eux, ils ne croient pas à la résurrection, ces Grecs-là. Alors, dans ce cas, ils sont en train de renverser la foi des frères, de renverser toute la doctrine sur laquelle la foi chrétienne est fondée, notre fondement. Alors, Paul dit, faites attention à ces gens-là. Ils vont corrompre votre croyance, ils vont corrompre votre foi, ils vont affecter même vos promesses. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, ça ne se limite pas à la résurrection. Ça va plus loin. Ça va jusqu'à dire que les promesses que Dieu a faites ne sont pas valables. Vous comprenez? Alors, d'où l'inquiétude de Paul de dire aux gens, non, Christ est ressuscité. Alors, il prévient l'église de Corinthe de faire attention à ces mauvaises personnes-là. Et ici, dans 1 Corinthiens 5, il nous parle réellement de la vie dans l'église. Des gens qui vivaient d'une certaine façon inappropriée. Alors, ça voudrait dire que quoi? Que les mauvaises compagnies, quand je préparais ça, j'ai l'impression qu'on pensait que c'est dans le monde seulement qu'on trouve les mauvaises compagnies. Les mauvaises fréquentations. Quand on passe, on n'a pas l'impression qu'on peut trouver ça dans l'église. N'est-ce pas? Mais ici, il parle. Il dit, quelqu'un se nommant, hein, se nommant frère. Donc, il est où? Il est dans la maison de Dieu. Et c'est à l'église de Corinthe, Paul écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quelqu'un se nommant frère, mais qui se comporte comme les gens du monde, qui est cupide, qui est impudique. C'est-à-dire, il va dans tous les sens. Il n'y a pas de pudeur, sens de pudeur en lui. Il est idolâtre. Il aime les choses du monde plus que Dieu. Peut-être qu'il a des vraies idoles dans sa vie aussi. Outrageux, ivrogne, ravisseur. Ça là, si on dit que ça c'est ton CV, personne ne veut t'embaucher. Si ça c'est le CV de quelqu'un, personne ne veut l'embaucher. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, l'Écriture nous dit, si quelqu'un est comme ça là, il dit ne mangez même pas avec. Combien de frères dans l'église et de sœurs, si on est sincère, sont comme ça? Ce matin, je ne connais pas ta vie. Tu connais ta vie toi-même. Moi, je connais la mienne et celle de ma femme. Ma femme aussi me connaît. Mais si ta vie est comme ça, l'Écriture veut que tu changes. Tous les dimanches, quand nous sommes ici, notre objectif est d'enseigner la parole de Dieu pour que ça change notre vie. Et non pour rester tel que nous sommes. Amen. Si tu viens pour rester tel que tu es, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Mais si tu viens dans le but de vouloir changer, d'accepter que Christ change ta vie, que la parole de Dieu soit dans ta vie quelque chose de compétent et de pertinente, alors tu es à la bonne place. Cette affaire-là, est-ce qu'il y a pile dedans? J'appuie, ça ne passe pas comme il faut. Alors maintenant, pourquoi est-il important que nous nous gardions de mauvaises compagnies, de mauvaises fréquentations? Pourquoi, si on vous demandait cela, tout le monde peut avoir une réponse différente, n'est-ce pas? Mais pourquoi il est important que nous nous gardions des personnes, de mauvaises fréquentations? Et l'Écriture nous dit toujours, je reviens à mon 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons ce adage-là, ce dicton-là qui dit, il suffit d'une pomme pourrie pour faire quoi? Une pomme pourrie dans le panier, il suffit ça de gâter tout le tas. Alors donc, il suffit de quelqu'un de corrompu et travailler avec lui pour te corrompre. Et si tu n'es pas prudent, non seulement sa corruption va détruire ta marche chrétienne, ça va détruire d'autres choses en toi. Pourquoi est-il important encore de nous garder réellement de mauvaises fréquentations? Parce que, premièrement, les mauvaises fréquentations nous éloignent. Nous n'avons rien de bon à apprendre en cela. L'Écriture nous dit, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Parce que le méchant est appelé des fois insensé. Les mauvaises conduites, les mauvaises fréquentations sont appelées aussi des moqueurs. On va le voir plus tard dans le livre de Psaumes. Et d'autres attributs, d'autres noms leur sont attribués. Alors, donc ici, il est appelé un insensé. Un insensé, ce n'est pas seulement le fou que vous voyez dans les centres d'asile. Un insensé, c'est quelqu'un qui refuse de reconnaître Dieu comme Dieu. Qui refuse de donner à Dieu la gloire. C'est pourquoi dans Romains 1, il dit que, étant devenus sages, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils croient qu'ils sont sages. Ils sont dans nos grandes salles d'université, dans nos grandes écoles. Ils sont dans des grands laboratoires, mais ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ont rejeté Dieu et toute sa gloire. Ils ne veulent rien savoir de lui. Mais ils se vantent d'être sages. Ils se vantent d'être quelqu'un. Mais l'Écriture les appelle qu'ils sont fous. Ils sont fous parce qu'ils ne connaissent pas ni les plans ni les desseins de Dieu. Ils sont fous parce qu'ils ne cherchent pas à connaître Dieu dans sa plénitude et dans sa bonté. Ils sont fous parce qu'ils n'acceptent pas le plan de Dieu pour être sauvés. Ils sont fous parce qu'ils ne savent même pas qu'ils courent vers l'enfer à une vitesse vertigineuse. Ils sont fous. Alors, ils sont appelés des insensés. La Bible nous dit de ne pas se tenir avec ça parce que tu n'as rien à apprendre d'eux en concernant Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à l'éternité. Peut-être au niveau de la médecine et d'autres choses, ils peuvent nous apprendre des choses. Mais en dehors de ça, Par rapport à Dieu, tu n'as rien à gagner avec ces personnes-là. Même des fois, ils vont attaquer ta foi chrétienne. Tu crois-tu que Dieu est la création? Tu as un Dieu que tu crois à la création, ou évolution? Et quand tu dis que tu crois à la création, qu'est-ce qu'on dit? Pour les scientifiques, tu es fou parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Certains scientifiques le disent. Mais on peut aussi les amener aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit dans l'évolution qui n'est pas scientifiquement prouvée. Parce que c'est de la théorie. Il se base sur la théorie pour dire que c'est quelque chose de fondé. Et chaque année, la science est en train de changer. Cependant, la parole de Dieu depuis plus de 2000 ans est toujours intacte. Il n'y a aucun scientifique qui est venu reprocher à la parole de Dieu en disant oh, « On avait fait telle recherche, on avait trouvé que c'était comme ça, maintenant on s'est trompé, on va changer, c'est comme si. » Ça n'existe pas dans la parole. Mais dans la science, ça existe tous les jours, tous les mois. C'est pourquoi il y a des journaux scientifiques qui sortent tous les mois pour pouvoir faire des mises à jour. Mais on ne fait jamais la parole, on ne met jamais la parole de Dieu, on ne fait jamais la mise à jour de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la vérité. Et celui qui fréquente des sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. Donc l'Écriture nous enseigne notre caractère en construction. Nous avons besoin de côtoyer des gens, des personnes qui sont sages, de marcher avec des gens qui peuvent nous aider à bâtir notre caractère, à ressembler à Christ, plutôt que de se tenir avec des gens qui détruisent cette image de Dieu en nous, qui nous découragent d'atteindre cet objectif que Dieu a planifié pour nous, qui nous combat et qui combat notre masque, qui combat notre foi. Donc l'Écriture nous enseigne cela. Mais maintenant, quelqu'un a dit ceci, oh, je suis allé plus vite, par rapport à l'importance avec ce qu'on s'attient. Il dit, s'aimer une pensée, c'est récolter une action. Et s'aimer une action, c'est récolter une habitude. Et s'aimer une habitude, c'est récolter le caractère. Si tu sèmes, tu vas récolter du caractère. C'est-à-dire que c'est comme un effet domino. Chacun a une conséquence sur ta vie. Ceux avec qui tu te tiens, quelqu'un a dit ceci, dis-moi ceux avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. N'est-ce pas? Si tu te tiens avec des gens de mauvaise vie, ben, on va te dire tu es une personne de mauvaise vie. Maintenant, la question qu'on peut poser, alors dans ce cas, est-ce qu'on doit vivre seulement à huis clos entre nous chrétiens? Moi, je ne veux pas marcher avec les gens de mauvaise vie, je ne veux pas faire ci. Donc, je vais vivre, on va vivre en nous, entre nous, on va créer un monastère et puis on va rester dedans. Non, l'Écriture ne dit pas ça. Il dit de ne pas les prendre pour amis. Mais vous allez me dire, mais Jésus-Christ lui-même, il avait des gens de mauvaise vie pour amis. La différence entre toi et Jésus, c'est que Jésus, lui, les influençait, que toi, tu n'es pas capable de les influencer. Amen. Parce que Jésus est capable de changer leur vie. Et ils ne pourraient pas avoir de l'impact sur la vie de Jésus pour essayer de le corrompre. C'est pourquoi après 33 ans de vie sur la terre, il dit « Qui de vous peut m'accuser de péché ?» Personne n'était capable de dire que Jésus avait commis un péché. Parce que lui, il pouvait impacter la vie de tout le monde, mais personne ne pouvait impacter sa vie. Amen. C'est pourquoi nous pouvons avoir quelques connaissances, avoir de côtoyer des gens, mais sans que il n'aille à impacter notre vie. Mais si c'est nous qui les impactons spirituellement, c'est bien. Mais si tu n'es pas capable d'avoir de l'influence sur la vie de quelqu'un, peut-être c'est mieux de te retirer. Parce que sinon, il va te traîner vers le bas. Que devons-nous faire? Maintenant que nous savons que l'Écriture nous met en garde contre les mauvaises fréquentations, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, que ce soit dans les fréquentations chum-chum et blonde et blonde et quoi là, on peut dire blonde et quoi? La blonde et son chum, c'est ça? Ok, chumé. Alors, on doit faire attention à cela. La femme que tu vas marier demain matin ou que tu choisis va avoir de l'impact dans ta vie. D'où la raison de prendre le temps de bien réfléchir. L'homme que tu as marié va avoir de l'impact dans ta vie. Soit il va être un turbo pour te propulser vers Dieu ou il va te retirer pour venir vers plus bas. Donc, il faut bien réfléchir. Mais si tu as fait le choix comme moi, c'est déjà trop tard. Moi, je suis content parce que celle que j'ai prise, ben, c'était tout un turbo. Ça m'aide à aller plus loin. Alors, donc, on doit réfléchir à ça. Ce que nous côtoyons, les amis que nous avons. C'est pourquoi on ne peut pas prendre n'importe qui comme ami. On doit faire très attention. Maintenant, si jamais tu as déjà de mauvaises fréquentations, tu as de mauvaises personnes dans ta vie, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu me dis, Adama, là, moi, là, ce que tu dis est vrai. Et moi, j'ai des amis qui ne sont pas fréquentables, mais je les fréquente. On est ensemble depuis longtemps. Je ne sais pas comment les quitter. Ils me tirent toujours dans le côté négatif. Je ne suis pas capable de les ramener de l'autre bord. Alors, l'Écriture nous dit, premièrement, tu vas devoir les quitter. On va regarder ça. On va abandonner ces choses-là. Abandonne tes mauvaises fréquentations. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'il faut couper. Et l'Écriture nous dit que si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu fais? Couper. Si ta jambe est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu fais? Amputation. Donc, c'est ce qu'il te dit. L'Écriture nous parle de ça. Ça voudrait dire que ce n'est pas physiquement que tu dois enlever. Ça voudrait dire spirituellement, enlève tout ce qui peut t'empêcher, t'encombre, t'empêche de marcher à l'exemple de Dieu et d'être un chrétien agréable à son Père, à son Dieu. Et être efficace dans la maison de Dieu. Être un outil, un instrument que Dieu va utiliser dans sa maison de Dieu pour le progrès de ses frères et de ses sœurs dans le Seigneur. Alors tout ce qui t'empêche de faire cela, tu dois couper. Tu dois couper, tu ne dois même pas négocier. Ouais, mais peut-être il va... Non. Ouais, mais peut-être si on... Non, on dit coupe. Parce que le péché mignon avec lequel tu joues là, lui n'est pas mignon parce que ce péché mignon là a tué ton Seigneur, il l'a amené à la croix. S'il est mignon pour toi, il va te détruire. Donc, nous ne pouvons pas faire cela. L'Écriture nous dit dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2 que nous connaissons tous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Comme je l'ai dit tantôt, les méchants sont ceux qui sont des personnes qui sont considérées comme les moqueurs, ainsi de suite. Il va répéter, le psaume va répéter la même chose de différentes façons. Alors, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, je dois abandonner de marcher dans la voie avec le conseil des méchants. C'est-à-dire, je dois refuser de m'accommoder à la façon de penser des gens de mauvaise vie. Je dois refuser de prendre leur style, de faire comme eux, de me comporter comme eux. Mais vu qu'on s'influence tous, quand on regarde une tenue qui sort à la mode demain matin, tout le monde veut l'avoir. Une voiture qui est sortie, tout le monde veut l'avoir. Mais on dit, si tu as des gens qui t'influencent comme ça, il faut les couper. Il faut refuser de faire ça. C'est un choix salutaire. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Passe pas du temps avec eux. Tu ne te plais pas dans ce qu'ils font. Tu ne marches pas non plus dans leur voie, dans leur façon de faire. Il dit, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, quand je préparais cela, j'ai pensé dans la parole de Dieu, dans Néhémie, chapitre 2, verset 19. Quand Néhémie avait entrepris de bâtir la maison de l'Éternel, vous savez ce qui s'est passé? Tobija, Sambala se sont moqués de lui pendant tout le temps qu'il bâtissait la maison de Dieu. Ces moqueurs-là, c'est des gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent de ta foi, qui se moquent même de ton progrès, ils se moquent même du ministère que tu fais pour Dieu, alors ils trouvent que ça n'a pas de sens. L'Écriture nous dit, coupe avec ça. Mais quelque chose d'intéressant dedans que tu peux faire, choisis-toi de nouveaux amis. Premier nouveau ami qu'on peut trouver, vous savez c'est quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, la parole de Dieu est au cœur de ce psaume-là. Ce psaume-là, la parole de Dieu est au centre. Ce que je fais avec la parole de Dieu, le juste et le méchant. Celui qui marche pour Dieu et celui qui ne marche pas pour Dieu. Celui qui cherche la volonté de Dieu et celui qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Celui qui cherche à plaire à Dieu et celui qui haït Dieu. Les deux vont terminer différemment. L'autre va progresser, il va réussir, mais l'autre, sa fin est totalement terrible. Alors donc, si nous choisissons des amis, nous devons essayer d'éviter et de comprendre cela, de pouvoir choisir de bons conseillers, qui est la parole de Dieu premièrement. Ton premier ami doit être la parole de Dieu. Quelle est la place que la parole de Dieu occupe dans notre vie? Des fois, on a des amis dehors, humains là, qui prennent tellement de temps dans notre vie qu'on n'a même pas le temps de lire la parole de Dieu. On n'a pas le temps de passer du temps agréable avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec cela? Maintenant, cherche des bonnes compagnies. L'Écriture nous dit ceci dans le psaume 119, verset 63. Il dit, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » C'est David qui dit ça. « Je suis l'ami de ceux qui te craignent, ceux qui te respectent, ceux qui t'aiment, qui aiment ta loi et qui font de ta loi leur délice. Ceux-là sont mes amis. Je les aime et je suis prêt à être avec eux, passer du temps avec eux. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu te garderas des sentiers des justes. » Alors, c'est important pour nous. Je vais appeler Anne-Marie qui va venir nous dire quelque chose, s'il te plaît. Petit témoignage et puis après, on va passer à quelque chose d'autre. Ok, c'est beau.
Donc, bonjour. Adama m'avait demandé de parler un petit peu, de faire un petit témoignage par rapport à ma vie un petit peu qui a été impactée par des amis. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, mais je me suis éloignée de Dieu. Puis, à un moment donné, j'avais que des amis non chrétiens. Puis, ça m'a influencée dans de mauvaises décisions, dans de mauvais choix de vie. Puis je pense que qu'est-ce qu'il y a d'amour aussi, c'est important que vous le faire ressortir. Il y a une différence entre évangéliser puis fréquenter des personnes, ce qui est deux choses différentes. Moi, quand que je suis revenue au Seigneur, j'ai dû couper vraiment carrément avec certains amis parce que c'était des personnes qui m'entraînaient dans des mauvaises influences. Mais aujourd'hui, je suis rendue à un autre stade de ma vie, puis je peux revoir certaines de ces amies-là. Puis là, c'est moi qui, comme disait Adama, j'ai de l'impact sur elles parce que je suis assez forte. Autrement, avant, c'était le contraire. C'était ces personnes-là qui étaient plus fortes que moi, donc qui m'entraînaient dans de mauvaises choses. Puis aussi, ce que j'aimerais peut-être souligner pour... appuyer ce qu'Adama dit. Oui, se faire des amis chrétiens, mais je sais que c'est pas toujours facile. Moi, avant de venir ici, j'ai fréquenté une autre église, puis c'était pas facile pour moi d'entrer dans des groupes. Puis je me mets à la place de certaines personnes qui sont peut-être un peu plus introverties. Puis je me dis, c'est vrai, c'est pas facile. On a un travail à faire pour aller vers les gens. Mais j'ai peut-être un encouragement pour aussi les chrétiens. Des fois, comme pour reprendre une expression qu'Adama a dit la semaine dernière... Des fois, les chrétiens, on a une face, comment t'as dit, comme un cheval qui vient de boire de l'eau chaude. Oh,
la face longue comme un cheval.
Ouais, tu sais, on n'est pas, accueillant, on n'est pas, tu sais, on n'accueille pas ces personnes-là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller juste ailleurs, à des endroits où ils vont se faire accepter. Puis, c'est peut-être pas avec des bonnes influences. Puis... je pense que je vais m'arrêter là parce que le temps est avancé, mais c'est juste pour vous dire que moi, j'ai vu les deux côtés de la médaille, puis peu importe l'âge qu'on a, c'est pas juste les jeunes. Des fois, moi, j'étais jeune, mais si tu as plus d'amis ou de fréquentation ou de personnes que tu côtoies qui ne considèrent pas Dieu dans leur vie, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact sur toi. Puis moi, je dirais que c'est ça, si tu passes ton temps dans la parole. Puis moi, j'ai vécu aussi beaucoup de belles choses avec des amis chrétiens. Ma foi a vraiment évolué. Si j'avais pas eu le groupe Face à Face quand je suis revenue au Seigneur, je me suis liée d'amitié avec notamment Prisca, Evelyne, tout ça. Puis c'était des filles qui, encore aujourd'hui, sont importantes pour moi, pour des prises de décision. Je peux les appeler n'importe quand. On prie ensemble. C'est vraiment ça qui me tient. Si j'étais toute seule, moi, en tout cas, je serais pas ce que je suis aujourd'hui, puis j'aurais de la misère dans ma marche chrétienne.
Merci Anne-Marie. Et c'est ça qu'on veut comprendre, que si je coupe quelque part, je dois renouer avec d'autres choses. Je fuis d'autres situations et je cours après d'autres relations qui sont saines. Et ça, c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Anne-Marie a coupé avec le monde, mais elle a cherché dans la maison de Dieu des hommes et des femmes, des personnes avec qui elle peut avoir du temps pour pouvoir croître dans sa foi. Et aujourd'hui, elle continue de servir dans le ministère. Elle continue de s'impliquer. C'est vrai qu'elle a accouché récemment, mais elle sert le Seigneur. À tel point qu'un garçon qui s'appelle Raphaël Gauthier l'a vu, il dit « Ah, je ne laisse pas cette femme-là partir. Il a marié. » Vous comprenez? Alors, donc, c'est ça. Quand on marche avec le Seigneur et quand on fait des bonnes choses de cette façon, on fait de bons choix de suivre le Seigneur et on laisse le monde être le monde, mais nous, on a une mission comme enfants de Dieu. Alors, pour aller vers ma conclusion, j'aimerais qu'on regarde un petit clip, si c'est possible de le lancer et qui va nous parler. Mettez le son, s'il vous plaît. Double clic dessus, hein. Oui. Mets un peu le son. C'est beau. On va. Hein? Alors, vous voyez pourquoi je vous montre ça. Ces singes-là, il y a un quand on n'a pas vu peut-être le départ, il y a un qui prend le téléphone et puis il reçoit un téléphone, un cellulaire, il écoute. Et puis, un deuxième qui vient à côté avec lui. Et ils se lèvent, ils commencent à danser parce que c'est comme s'ils ont reçu un message. Ils s'influencent entre eux, ils commencent à chanter et à danser. Un singe qui joue de la guitare, ça voudrait dire que les hommes les ont vraiment influencés. Alors, donc, ça voudrait dire que nous avons des influences sur chacun de nous et dans notre entourage partout où nous sommes. Et l'Écriture nous dit ceci, de faire attention. Maintenant, ce qu'il nous dit, quelqu'un qui se nommant frère est impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, ne mangez même pas avec un tel homme. Et quand on regarde, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce matin, moi je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vas être dans les jours à venir, mais ce que j'ai à te laisser comme message, ton caractère qui est en construction a besoin des bonnes personnes pour t'entourer, pour pouvoir réussir. Entoure-toi avec des chrétiens solides, avec des gens qui aiment la foi, qui marchent et qui convergent dans la même direction que toi, et qui peuvent te coacher, qui peuvent t'encourager, qui peuvent te relever quand tu tombes, qui peuvent pleurer avec toi, qui peuvent prier avec toi, qui peuvent se réjouir avec toi, qui peuvent manger avec toi, ceux avec qui tu peux aller t'asseoir et dévoiler tout ton cœur sans qu'ils ne te jugent, sans qu'ils ne te condamnent, mais qu'ils te lèvent, ils t'aident. Ceux-là sont des bons amis. Cela, c'est ce que Dieu veut que tu aies. Mais si tu n'as pas ça dans ta vie, tu es faite à l'os. Prions que Dieu nous aide. Notre Dieu, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Gloire et honneur à toi. Nous avons besoin de bons amis. Nous voudrons que toi, tu sois premièrement notre meilleur ami. Que ta parole soit notre ami de tous les jours et ton Esprit Saint. Seigneur, toute la Trinité, premièrement, avant d'avoir d'autres âmes et d'autres personnes dans notre vie, notre Dieu. Alors là où on a péché contre toi, pardonne-nous, relève-nous et donne-nous le courage d'avancer et de pouvoir faire de bons choix chaque jour pour notre caractère en construction. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.